Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir au studio Ozone pour une conversation et une présentation du livre Vienne avant la nuit de Robert Bober. Je dois dire que je suis particulièrement heureux d'être le modérateur de cette rencontre et je remercie vivement l'équipe de Denis Mola de m'avoir demandé d'être présent pour à la fois saluer Robert Bober et discuter avec lui. Je pense qu'il est peut-être inutile d'être trop long pour cette présentation. Vous connaissez Robert Bober, beaucoup d'entre vous. Je me contenterai de rappeler deux ou trois choses à son sujet. Il a été, alors, il y a quelques années de cela, il a été l'assistant de François Truffaut sur trois films importants de celui-ci. Les 400 coups, tirés sur le pianiste, Jules et Jim. Il est rentré à la télévision, à l'époque c'était l'ORTF, en 1967, comme
Oui,
réalisateur.
je ne sais même pas si c'était déjà
Ce
l'ORTF.
n'était peut-être pas encore l'ORTF.
Non, je suis rentré en 63.
63.
Et puis, je suis rentré à la télévision parce que j'avais envie de faire des documentaires et à l'époque au cinéma, on ne pouvait pas en faire. Voilà. Et c'était une administration un peu lourde. Et on ne pouvait être réalisateur qu'après avoir été assistant pendant 3 ans à la télévision, quel que soit notre passé.
Alors, je vais peut-être vous faire rougir ou vous ennuyer, mais vous avez employé un mot important, documentaire, et je crois que l'on peut dire sans flagornerie que vous êtes l'un des plus grands documentaristes français. Vous avez une œuvre considérable, plus de 120 films, je crois.
Oui, autour de 120, oui, plus ou moins long, mais oui.
Et il se trouve que, notamment à propos de votre cinéma, de vos films, mais aussi à propos de vos livres, on a l'habitude, de mon point de vue, comment dire, de réduire votre travail. On a l'habitude de dire que vous êtes un cinéaste et un écrivain de la mémoire. D'autres insistent en disant que vous êtes plutôt un cinéaste et un écrivain de la trace. Souvent, ce que l'on écrit sur vous oppose mémoire et trace. Et il me semble que, à bien des égards, l'on peut totalement dépasser cette contradiction parce que, d'abord, vous avez pendant fort longtemps, avec Dumayet, travaillé à propos d'écrivains dont le parcours ne correspond absolument pas au vôtre et dont les thématiques ne sont pas les vôtres. Et on l'oublie, hein, cela. Et il me semble que votre travail qui concerne votre parcours personnel concerne essentiellement la transmission. Alors évidemment, on retrouve la mémoire, on retrouve la trace, mais vouloir réduire cette question de la transmission à l'un des deux versants me paraît un peu réducteur. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, je suis d'accord, je suis d'accord.
Bon.
Oui, non, c'est vrai on pense que les documentaires que j'écris en même temps que je les réalise sont plus personnels, mais sur des textes de Pierre Dumayet, j'ai tourné des documentaires, et il me semble que le regard est le même, les questions qu'on se pose. Pour savoir qu'est-ce qu'on va montrer et entendre sont les mêmes.
Alors justement, nous avons ici un très bel album qui est édité par POL, votre éditeur, depuis longtemps. Et en fait, ce livre vient après un film qui va être présenté ce soir à l'UGC, qui porte exactement le même titre, Vienne avant la nuit. Sauf erreur de ma part, le film est sorti en 2016.
Le film a été terminé en 2016, mais il a été distribué à la fin du mois de novembre 2017.
Bien. Et c'est à l'automne 2017 que l'album est sorti chez POL. Alors, il se trouve, et nous allons beaucoup parler vraisemblablement de cet homme, je trouve que votre film et le livre illustrent un petit peu ce que j'énonçais tout à l'heure, c'est-à-dire que, à bien des égards, au sens strict, votre film et votre livre ne relèvent pas du souvenir, puisque vous parlez d'un homme que vous n'avez pas connu. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, cet homme?
Oui, Enfin, j'ai toujours eu le sentiment, cet homme, enfin, qui est en photo dans l'album, ressemble à un vieux rabbin, mais il n'était pas rabbin. Les juifs pieux, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, ressemblaient, avaient une belle barbe blanche. Voilà, c'était comme ça. Et j'ai toujours eu le sentiment que cet homme que je n'ai pas connu, qui est mort en 29, moi je suis né en 31, j'ai toujours eu le sentiment que c'était le personnage de la famille qui m'avait le plus transmis quelque chose. Alors ça paraît curieux, mais c'est peut-être parce que on parlait un petit peu de lui, la famille, son visage très certainement. Et puis il avait été allumeur de réverbères, c'est un métier merveilleux, hein, voilà. Éclairer une ville, c'est une belle responsabilité. Et puis il était ferblantier également. J'ai chez moi encore deux très beaux bougeoirs faits de ses mains qui sont passés de génération en génération. Alors tout ça a été chez mes parents, maintenant c'est chez moi. Et j'ai pris conscience de son importance deux fois. C'est que les livres... Alors, j'ai tout fait tardivement dans ma vie, hein, parce que j'ai fait d'autres métiers avant. Moi, le premier livre que j'ai lu, je devais avoir pas loin de 19 ans. Et c'est une chose qu'on ne rattrape jamais, parce qu'au moment de l'adolescence, on se souvient beaucoup plus de ce qu'on a lu au moment de l'adolescence qu'après. Bon, enfin, bon, c'était comme ça. Ce qui fait que j'ai un parcours un peu particulier. Et je me suis rendu compte tardivement que les livres dans lesquels je rentrais tout naturellement, c'était des auteurs comme Kafka, Schnitzler, Stefan Zweig, Joseph Roth, sans que je me pose de questions. Et j'en ai pris conscience en 1976, lorsque Ellis Island, cette île au large de Manhattan, accueillait avec quelques restrictions tous les émigrés qui venaient d'Europe, j'avais appris à ce moment-là que cet arrière-grand-père avait tenté l'aventure américaine, qu'il avait été refoulé. Et ça a été, à partir de cette histoire, avec Georges Perec, on a tourné ce film Récit d'Ellis Island. Voilà. Donc il a pris de plus en plus de place. Et puis, en montrant un jour le tout premier film que j'ai fait, c'était sur un écrivain de langue yiddish qui s'appelle Sholem Aleichem, j'ai vu que sur l'écran, j'avais mis déjà sa photo. Voilà, donc il était déjà là. Et à partir de ce moment-là, c'est l'imaginaire qui a fonctionné.
Alors, il s'agit donc de votre arrière-grand-père.
Maternel, oui.
Il est originaire des confins de l'Empire austro-hongrois. À l'époque, c'est la Galicie. Hein. Enfin, c'est toujours la Galicie,
mais
c'est la relève. Oui. C'est la relevée de l'Empire austro-hongrois. C'est à la charnière du 19e et du 20e siècle qu'il quitte la région pour essayer de rejoindre les États-Unis. Il est refoulé. On ne sait pas trop comment, vous ignorez comment et pourquoi il a coupé sa barbe.
Oui, voilà, oui, ça c'est un mystère.
C'est très important, vous ne savez pas. Et c'est sur le chemin qui pourrait le reconduire chez lui qu'il va faire une halte à Vienne.
Voilà, le temps que sa barbe repousse.
Voilà.
Parce que pour un juif pieux, la disparition de la barbe, c'est le signe du déclin de la foi. Et voilà. Alors, il avait dépensé l'argent du billet. Bon, les émigrés à l'époque, c'était toujours ou le père de famille ou l'aîné des garçons en général, c'était à cette époque, qui partait et qui essayait de gagner de l'argent et pour ramener, pour l'envoyer en Europe et pour que petit à petit leur famille arrive. Alors, non seulement il avait dépensé l'argent du billet, mais en plus, il n'avait plus de barbe. Et il a eu honte, il s'est arrêté à Vienne pendant quelques temps, le temps que sa barbe commence à avoir une certaine allure. Et il a dit, on ne va plus en Amérique, on va à Vienne, qui est une ville formidable, effectivement, à côté de ce petit village. Non, c'était un grand village, Saint-Michel. Il va y avoir une vingtaine de milliers d'habitants. Voilà. Et j'ai cru, quand j'ai commencé ce film, qu'il était venu d'abord, que ses enfants l'avaient rejoint. En fait, j'ai appris en cours de film, et donc j'ai rien changé à la chronologie. C'est sur son instigation, sur son influence, que ses enfants aînés sont partis d'abord à Vienne. Et lorsque la femme de mon arrière-grand-père, donc mon arrière-grand-mère, est morte, les enfants lui ont dit « Ne reste pas tout seul, viens nous rejoindre à Vienne. »
Alors vous ne savez, vous ignorez de quel port, par quel port il est passé. Vous émettez plusieurs hypothèses, vous parlez de Hambourg, vous parlez de Brême, vous parlez d'Anvers, vous ne savez pas par quel chemin il est arrivé à Vienne. Il s'est arrêté à Vienne le temps que sa barbe puisse repousser, et là il s'est passé quelque chose entre cette ville et lui.
Oui.
C'est-à-dire que non seulement il s'est senti bien dans cette ville, mais il a décidé de s'y installer. C'est un peu surprenant parce que, a priori, pour des hommes et des femmes de ce début du XXIe siècle, à l'époque, qu'est-ce que l'on sait de Vienne ? Qu'est-ce que nous savons aujourd'hui de Vienne ? Peut-être qu'au début du XXe siècle, c'est là où l'on trouve un certain docteur Sigmund Freud, que c'est là où l'on trouve une avant-garde artistique avec la sécession.
Oui, c'était la capitale culturelle de l'Europe.
Voilà.
Et puis la ville des concerts, encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a plus de gens qui vont au concert le soir qu'au cinéma.
Et alors, votre arrière-grand-père, vous employez l'expression dans le livre, et vous lui accordez une valeur sentimentale et affective importante, c'est un juif de l'Est. Hein, vous insistez sur cette expression, sur un juif de l'Est. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Et l'autre question qu'immédiatement je vous poserai, c'est que, comment expliquez-vous que ce juif de l'Est ait pu bien se sentir à Vienne, dans cette capitale artistique ?
Alors, donc, la Pologne a été un pays où il était difficile pour les juifs de vivre à partir du début du 19e siècle. Les grandes villes leur étaient interdites, d'où les petits villages, qu'on appelle les
Städte.
On sait qu'on appelle les Städte, au pluriel les Städtler. Et il y avait donc des villages où les Juifs étaient 60%, 70%, même dans certains cas, de la population qui était juive. Les grandes villes leur étaient interdites. Et ils avaient envie d'aller du côté de l'Occident, d'où l'arrivée de beaucoup de Juifs, et avec une deuxième vague importante après la guerre de 14. Ils avaient peur des bolcheviks, etc. Et lui, il est venu après la guerre de 14, à mon avis, dans les années 20. Et il s'est senti bien parce que c'était une ville plus moderne, parce que ses enfants y étaient. Et je ne sais pas s'il a pu reprendre son métier de ferblantier, ça j'en sais rien. Et voilà, quand je ne peux rien affirmer, je fais appel à l'imaginaire.
Oui.
En l'annonçant, bien sûr, que l'imaginaire.
Bien sûr. Vous sollicitez l'imaginaire, mais en même temps, vous avez retrouvé des traces de ce parent, et notamment à Vienne, puisque vous êtes allé au Zentralfriedhof, au cimetière, et vous avez retrouvé sa tombe.
Oui, pas sans mal.
Non sans mal, hein.
Pas sans mal, oui. Oui. Oui, j'ai retrouvé sa tombe, et ma grande surprise, c'est qu'il était seul. Il n'y avait que lui. Et c'est là que j'ai compris que lui, il est mort d'une mort paisible, puisqu'il est mort en 29. Et donc j'ai compris que d'autres étaient restés en Pologne, et que sa femme, mon arrière-grand-mère, est morte en Pologne, aussi dans les années 20. Et c'est après qu'il est venu. Et Vienne est une ville de paradoxes. C'est à la fois la ville où donc il y avait tous ces auteurs que j'ai cités, il y en a bien d'autres, qui avaient vraiment pignon sur rue, qui allaient dans les fameux cafés littéraires, où le sionisme est né, avec Theodor Herzl, c'est la ville de Freud, etc. Et en même temps, c'est une ville où l'antisémitisme était très fort. Le maire de Vienne, Karl Luger, est devenu le maire de 1897 à 1910. Et Karl Luger, ses écrits ont influencé Hitler. Et voilà, c'est une ville où il pouvait y avoir l'un et l'autre. Et une ville complètement paradoxale. Et si vous feuilletez l'album, si vous voyez le film, il y a encore, ça a été retrouvé, des cannes qu'on appelait bâtons de promenade, dont la poignée était le nez d'un juif. Et les gens, la bourgeoisie, se promenaient avec ce genre de cannes. Voilà. Et il y avait... il y avait en Autriche des corporations étudiantes qui apprenaient l'escrime, qui se battaient en duel. L'étudiant qui n'avait pas au moins une balafre n'était pas considéré comme un étudiant viril. Et les juifs n'avaient pas le droit d'apprendre l'escrime sous prétexte qu'ils n'avaient pas d'honneur. Donc c'est il y a tous ces paradoxes.
Une ville et un milieu contradictoires, parce que en vous lisant, j'ai appris ce que Stefan Zweig pouvait dire de cette ville. Je cite, il était merveilleux de vivre dans cette ville hospitalière qui accueillait tous ceux qui venaient de l'étranger et se donnait généreusement. Donc il y a cet aspect grande capitale artistique, culturelle, avec... vous me corrigez si je me trompe et si je m'égare, une politique de l'empereur qui était plutôt bienveillante. Plutôt bienveillante. Et en même temps, une présence insupportable d'un antisémitisme virulent. Les deux aspects.
Oui. Alors, Stefan Zweig était, était plus prudent, dénonçait moins l'antisémitisme que les autres,
que Roth, par exemple.
Roth, par exemple, ou Schnitzler. Et parce que c'était l'auteur le plus traduit au monde. Et il était devenu très très riche. Il avait une collection de manuscrits, de partitions de Beethoven, enfin des grands musiciens. Et ça a été un des premiers véritables Européens. D'ailleurs, son livre Le Monde d'hier porte en sous-titre Souvenir d'un Européen. Et lui, il se sentait bien, il était moins atteint que les autres. Les autres étaient plus lucides. En particulier Joseph Roth, qui dès 1932, c'est-à-dire un an avant la prise du pouvoir par Hitler, disait qu'un jour, on ne se contentera pas de brûler les livres.
Oui. Vous vous sentez d'ailleurs, en tant que lecteur, beaucoup plus proche de Joseph Roth que des autres.
Oui, pour un tas de raisons. D'abord parce que c'était le seul qui ne venait pas d'une famille bourgeoise. Les autres étaient installés depuis je ne sais pas combien de générations déjà en Autriche. Lui venait de Brody, qui est une ville à côté de Lemberg, où Lvov, où Lviv, selon les périodes. Et il venait de Galicie orientale. Et lui, sa langue maternelle était le yiddish, ce qui était mon cas aussi.
Oui, vous dites que c'est la langue dans laquelle vous avez grandi.
Oui.
Véritablement.
Enfin, j'ai grandi avec plusieurs langues.
Bien sûr, mais vous en parlez comme étant votre langue première.
Oui, c'est la langue qu'un bébé entend d'abord. La langue des parents, les berceuses, etc. Et puis, à l'école, en France, le français a pris le dessus.
Bien sûr. Pour le public et pour bientôt vos auditeurs, il faut rappeler donc que vous êtes né à Berlin et votre famille a quitté l'Allemagne pour venir s'installer en France.
Oui, en 1933. Oui.
Voilà, donc vous êtes parti quand le Parti national-socialiste a pris le pouvoir avec Hitler.
Oui, comme énormément de juifs qui sont partis, ou même des anti-nazis qui d'abord ont lutté sur place et puis qui ont fui... après, c'était le camp de Dachau, ou Dachau, comme on veut, est ouvert bien avant l'ailleurs.
Bien sûr. Alors, si vous me permettez, si vous en êtes d'accord, je voudrais vous poser quelques questions sur la manière dont vous avez conçu et élaboré votre film, et ensuite votre livre. Nécessairement, j'imagine, vous avez fait appel à vos souvenirs, à ce que vous avez entendu et appris au sein de votre famille. Oui. Mais en même temps, vous avez vraisemblablement dû vous documenter.
Oui, j'ai lu énormément. Et donc, quand on ouvre un livre, comme on ne sait pas ce qu'on va trouver dedans, on ne sait pas donc si on va s'en servir ou pas, il faut lire 10 fois plus de choses. Mais si on ne lit pas quelque chose, on se dit, il y avait peut-être là quelque chose que j'aurais pu utiliser. Donc j'ai énormément lu et je savais qu'il y avait 3 thèmes qui devaient s'interpénétrer et ça c'était une des difficultés. C'est l'histoire de mon arrière-grand-père d'une part, la montée du national-socialisme et les écrivains de cette époque. Et voilà, donc on me disait, tu ne peux pas t'en sortir, ces 3 choses sont il faut procéder par épisode. Et bon, j'ai réussi à donner, je crois, une certaine fluidité au récit.
Tout à fait. Vous avez utilisé, me semble-t-il, aussi la photographie.
Oui. Depuis toujours, j'utilise la photographie. Je me suis intéressé il y a très, 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 très longtemps à la photographie avant de m'intéresser au cinéma.
Parce qu'il me semble que j'ai très modestement relevé des traces. Il me semble que vous avez peut-être utilisé Roman Vichniac.
Oui. Alors, pas dans le film, mais j'ai montré des photos de Vichniac par ailleurs. J'aurais pu l'utiliser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, on le voit plus dans le film que dans le livre, mais dans le livre tout de même aussi. Il y a, à un moment donné, je raconte... J'essaye d'imaginer, j'ai jamais connu, bien évidemment, pas mon arrière-grand-père, mais mes grands-pères non plus, je ne les ai pas connus. Et ça me manque, j'essaie d'imaginer, enfant, tenant la main d'un grand-père qui me montrerait sa ville, voilà, et qui me raconterait un petit peu comment il est devenu ce qu'il est devenu. Et à partir de quelques fragments, de quelques bribes, j'ai imaginé un train comme on voit dans L'être d'un inconnu de Max Ophuls, qui lui aussi tournant à Hollywood, une nouvelle de Stefan Zweig, montre un train factice qui est au Prater. Et ce train factice tourné à Hollywood est peut-être plus réel parce qu'empreint de nostalgie que s'il avait tourné sur place. Et partant de ce train, j'ai aussi imaginé un train, j'ai tourné dans un vrai train ancien, fixe, et j'ai fait défiler des images. Je n'ai pas voulu faire défiler des images de Vichniac ou de Kertyszner ou d'autres photographes de cette époque, parce que la photographie, c'est le réel. Or, comme j'étais dans l'imaginaire, j'ai donc écrit un texte, j'ai demandé à quelqu'un qui a énormément de talent, une femme peintre et dessinatrice, je lui ai donné le texte et je lui ai dit, voilà, il faut faire des dessins qui correspondent à ça. Parce que les dessins, c'est également l'imaginaire.
C'est ce texte-ci.
Voilà, là, il est en yiddish.
Il est en yiddish, c'est un dessin que je vous le montre.
Oui, oui. Voilà. Mais il est en français en cours de récit, bien évidemment.
Et il est ici.
Voilà.
Il est ici.
Et c'est ce texte-là. Oui. Ce texte-là qu'on retrouve en yiddish à la fin. Et dans le film, j'ai demandé ce texte que ce soit traduit en yiddish. Il est dit en yiddish, sous-titré en français, parce que c'est la langue dans laquelle mes grands-parents, et à plus forte raison mon arrière-grand-père, m'auraient raconté leur vie.
Si vous m'autorisez, j'aimerais lire quelques lignes. Je me permets de dire à l'assistance que la première vignette, je la montre, il y a une fenêtre et elle est éclairée par deux chandeliers. Vous avez parlé de deux chandeliers.
Oui. Non,
c'est quelque chose qui fait écho.
Voilà. C'est bien de les avoir remarqués parce que tout le monde ne le voit pas.
Bon, voilà. Alors je vais essayer de lire à peu près correctement votre texte. Dieu a inventé les ténèbres pour que l'homme puisse connaître le repos, mais pas seulement. C'est aussi, dit-on, pour permettre aux hommes de créer une autre lumière, afin de prolonger celle du jour. C'est pourquoi je fabrique des chandeliers, destinés, lorsque le soir arrive, à maintenir la lumière d'une chandelle. Cette lumière est fragile, tremblotante, elle est menacée par le moindre souffle, c'est pourquoi il faut la protéger, même si elle n'a pas la pureté de la lumière divine qui illumine toute chose sur la terre. Alors, votre arrière-grand-père était allumeur de réverbère ?
Il a été, il a aussi été allumeur de réverbère.
Mais alors, justement, cette lumière qu'allument les hommes n'a pas exactement la même nature que la lumière de Dieu.
Ben oui, c'est pourquoi la lumière de Dieu. Moi, je ne suis pas religieux, mais faisant parler mon arrière-grand-père, c'est très visiblement un homme pieux qui peut parler comme ça. Il a fallu donc, comme un comédien peut le faire, essayer de me mettre dans sa peau, entre guillemets, et de le faire parler. Et c'est bien de pouvoir faire parler des membres de sa famille qui ne sont plus là.
Alors justement, vous m'aidez à aborder un autre aspect que je souhaite évoquer avec vous. Il y avait vos souvenirs, il y avait votre désir, il y avait peut-être aussi un appel venant de l'histoire, venant du dehors, puisque cet homme, ce parent, vous ne l'avez pas connu. Il y a quelque chose qui vous a mis sur la route pour le retrouver et l'inventer, les deux, à la fois.
Oui. En vous écoutant, je pense d'un coup que si j'avais pas été grand-père moi-même, j'aurais peut-être pas fait ce film.
Alors, vous me coupez...
Et j'essaye, dans la mesure du possible... J'essaie d'être pour mes petits-enfants le grand-père que j'aurais aimé avoir.
Alors, je réservais cela pour la fin de notre conversation.
Faudra leur poser la question plus tard pour savoir.
Non, mais vous savez, je ne suis là que pour vous mettre en position de défendre votre livre et de le présenter. Effectivement, votre livre est dédicacé à vos deux petits-enfants, à Joachim et à Sacha.
Oui, oui,
c'est indiqué... d'entrée. À la fin de votre livre, il y a une photographie où l'on vous voit tous les trois. Je me suis demandé si, en quelque sorte, le film et le livre ne vous avaient pas permis de prendre la place de votre arrière-grand-père.
Oui, on peut jamais prendre la place de quelqu'un qui n'est plus là. Ça, c'est... c'est curieux parce que... quand j'étais adolescent, j'étais dans des milieux de jeunesse, en colonie de vacances. On apprenait la chanson « Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place ». Et ça me dérangeait toujours. Alors je chantais en même temps que les autres. Je me posais moins de questions que maintenant, bien évidemment. Mais je ne crois pas qu'on prend la place de quelqu'un d'autre. Prendre la place, ça veut dire que l'autre n'existe plus. Or, il existe en nous. Dans la tradition juive, on nomme les gens. Et lorsqu'on va sur une tombe, on ne fait pas de discours. On dit son nom, c'est la preuve qu'il existait, et on dépose une pierre. Qui est la trace de l'autre passage, c'est tout. Et voilà, donc voilà, il y a un vide, et heureusement qu'il y a les rêves, on a parlé de Freud, les rêves c'est formidable. Ça permet de temps en temps de retrouver vivants des gens qui ne le sont plus.
Mais alors, je vais peut-être vous paraître naïf, qu'importe. Lorsque vous avez tourné votre film, vous êtes allé, ça m'a beaucoup frappé, de ce que je connais de votre film, cette séquence dans le cimetière.
Oui.
où il y a des animaux, où il y a des biches.
Des biches, oui.
Et il m'a semblé, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ces biches ne vous ont pas fait signe ?
Absolument, absolument. Et j'ai repéré en 2013, j'ai fait un premier repérage, en février, il y avait plein de neige. Alors c'est un cimetière où plus personne ne vient, parce qu'il n'y a plus de place pour enterrer les...
Il y a des herbes folles, hein, vraiment.
Oui, oui. Et là, bon, là, il y avait 30 cm de neige. Et je me suis dit, je vais marcher là, je vais trouver la tombe de mon arrière-grand-père. C'est un cimetière immense. Je savais très bien que je ne trouverais pas. Mais je me suis dit, de temps en temps, il faut croire au miracle. Et peut-être que je vais tomber dessus. Mais bon, ça, c'était impensable. J'ai marché pendant 4 heures. Et brusquement, j'ai entendu du bruit. Et je me suis tourné, il y avait deux biches qui passaient. Et je me suis dit, elles viennent d'où ces biches ? Est-ce qu'elles vivent là ? Si elles vivent là, il faut absolument que je les retrouve au moment du tournage. Et en fait, il y en a plus que deux. Et puis, une biche, c'est une idée de douceur. Et quand je les ai filmées, il y en a une qui me regarde, enfin qui nous regarde, étonnée de voir que dans ce lieu où il n'y a que des biches de vivantes, il y a quelqu'un qui se tient tout droit et non pas couché horizontalement. Et je me suis dit, il faut que j'établisse un dialogue. Ces biches-là, c'est l'innocence. Elles sont là pour parler à la place de ceux qui ne peuvent plus parler. Elles témoignent de quelque chose. Et j'ai voulu... Alors, c'est pas facile de filmer une biche, parce qu'au moindre bruit, elle se sauve. Et j'ai utilisé le fait qu'elle se sauve, parce que lorsque je parle des Juifs qui, en 1938, ont fui l'Autriche, plutôt que de montrer des documents de gens avec des valises, des enfants dans les bras, etc., bon, ce qui est un peu convenu, qui est vrai, mais pour moi, c'est un peu convenu, je montre des biches qui partent dans tous les sens, qui ont besoin de fuir pour survivre. Voilà, c'était une vision plus poétique, mais sans vouloir faire de la poésie pour autant.
Et en ce qui me concerne, en lisant votre livre et en le feuilletant, j'ai trouvé que les photographies du cimetière et des biches sont en travail avec les photographies terribles de la Heldenplatz. Il me semble qu'il y a là quelque chose, un écho extrêmement violent, puisque c'est sur la Heldenplatz que les Autrichiens ont accueilli Hitler au moment de l'Anschluss.
Par centaines de milliers.
Ouais. Exactement. Bon. Et je trouve qu'il y a un contraste très fort, très grand, entre ces photographies où l'on voit les gens en hystérie accueillir le Führer le calme de ces biches dans le cimetière.
Oui, c'est ça. Mais les biches, c'est l'innocence, comme les enfants. C'est pas... Et ce qui était bien, c'est qu'on a tourné en hiver et ces biches, on ne savait pas qu'il y en a quelques-unes qui deviendraient des cerfs, parce que les cornes ne poussent pas encore.
Alors, si vous me permettez, les biches ont fait signe, mais peut-être que vous avez reçu d'autres signes. C'est dans un musée, sauf erreur de ma part, que vous avez trouvé la photographie de votre arrière-grand-père.
Oui, alors ça, c'était un miracle qui m'a bouleversé. Le gendre de mon arrière-grand-père était photographe, donc il a fait cette photo qu'on voit et qui était faite en carte postale et qui était envoyée à tous les membres de la famille qui étaient dispersés dans le monde. Et il y avait cette photo chez moi, toujours, en carte postale.
Là aussi, je la montre.
Avec des bords dentelés, et puis et c'est écrit donc en yiddish et en allemand, c'était pour la nouvelle année. Et je sais que j'ai une cousine aux États-Unis qui a également cette photo. Et lorsque j'ai visité le musée du judaïsme, qui m'ont aidé à trouver la tombe, il y avait une dame qui feuilletait des archives, etc. Et elle me dit, tiens, j'ai une photo d'un rabbin qui va peut-être vous intéresser. Et elle me sort cette photo. Alors, je n'ai pas voulu raconter là l'émotion que j'ai eue, bien évidemment. Et l'explication, c'est que sur les 29 synagogues qu'il y avait à Vienne avant-hier, il y en a 28 qui ont été brûlées au moment de la nuit de cristal. Et que dans les ruines encore fumantes, le lendemain, la population juive a essayé de sauver ce qui pouvait être sauvé. Des chandeliers brûlés, des Torahs, des morceaux de Torah, des documents et des photos, dont cette photo.
Et ce que je trouve...
Là aussi, c'était un signe. Voilà.
Il y a quelque chose attaché à cette photo que je trouve assez cruelle. C'est que je pense que vous avez aussi un parent, un cousin, qui est le fils du photographe, que vous avez essayé de joindre... et qui a décliné votre demande.
Oui, alors je savais que j'avais un cousin là-bas, enfin un cousin éloigné, puisque c'est au bout de quelques générations, et je ne savais pas comment le trouver, et puis c'est la directrice du musée qui me dit, je l'ai retrouvé, et il vient lundi matin au musée, venez également. Alors j'étais tout content de retrouver... un cousin que je ne connaissais pas, persuadé que j'en serais reçu chez lui, prêt à acheter soit une boîte de chocolat ou un bouquet de fleurs, enfin voilà. Bon. Et en fait, il est venu au musée pour dire à la directrice, mais pas à moi, parce que moi je suis resté, on m'a demandé de rester en dehors, qu'il n'était pas question pour lui de me voir, qu'il avait décidé de ne plus être juif et qu'il avait détruit tous les documents qui pouvaient le révéler. Donc, j'ai un cousin qui croit avoir cessé d'être juif. Et je crois que malheureusement, on est toujours rattrapé par l'histoire. Ou je crois que ses enfants ou ses petits-enfants, peut-être un jour, essayeront de savoir qui étaient leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents et qui seront... parce que qu'est-ce qu'on fait quand on vit dans une famille, qu'on arrive à un certain âge et qu'on s'étonne de ne pas trouver de photos des ancêtres? On pose forcément des questions.
Alors justement, bon, cet homme, il ne s'agit pas de le juger, cet homme...
Oui, oui. En fait, il a décidé ça parce qu'il était traumatisé également. Hein. Il a vu toute sa famille déportée. Et il a pensé que la solution, c'était de...
D'effacer les traces.
C'est d'effacer les traces. Voilà.
Bon. Lui a pensé qu'il fallait effacer les traces. Et vous dites, vous l'avez évoqué, mais je voudrais vous entendre de nouveau, vous commenter cette attitude. Et vous dites, je ne sais pas comment on fait pour cesser d'être juif.
Oui, mais si je le dis, c'est parce que je ne sais pas comment on fait... Et parce que être juif, c'est pas une religion, puisque on peut être de culture juive sans être religieux pour autant, ou on peut être que religieux, enfin d'une manière ou d'une autre, on est le produit d'une histoire millénaire. Et voilà. Donc ceux qui ont choisi d'aller en Israël ont un pays. Mais l'essentiel de la communauté juive dans le monde, de la diaspora, pour eux, le pays, c'est leur histoire.
Alors, c'est merveilleux de dialoguer avec vous, parce que je m'interrogeais. Il me semble que nulle personne à peu près sensée niera l'histoire. Tout le monde sait qu'il y a une histoire. Mais ce qui me paraît très frappant en vous lisant et en vous écoutant, c'est que chez vous, non seulement nous entendons que vous savez qu'il y a une histoire, mais le lien qui vous relie à cette histoire, ce lien est vivant, il est charnel. Alors que vraisemblablement, l'évolution de notre monde et de notre société fait que nous percevons, chacun d'entre nous, à des degrés divers, nous percevons l'histoire comme étant complètement extérieure à notre personne. Tandis que pour vous, c'est quelque chose. Ce lien, il est constitutif de vous-même, me semble-t-il.
Oui, absolument. Enfin, il y a dedans, il y a une phrase que j'ai repris, que j'ai pris à Vladimir Jankélévitch, le philosophe, hein, qui dit que le passé a besoin de notre mémoire. Et alors, il se trouve que, sans attendre de connaître cette phrase que je recite, j'ai toujours été très sensible à ce qui s'était passé avant. À Paris, je suis un grand baladeur, je baladais dans les rues de Paris quand j'étais, avant de faire du cinéma, avant de m'intéresser à d'autres choses. Moi, j'étais dans le monde du travail, hein. J'ai commencé à 14 ans et demi à être tailleur dans les ateliers. Et un bon tailleur, d'ailleurs, parce que je pensais être tailleur toute ma vie. Donc autant bien l'apprendre. Et c'est d'ailleurs c'était une époque où le travail manuel était, on apprenait bien, on apprenait chez un patron dans un atelier, et c'était important de bien connaître le métier. Et voilà, j'ai ouvert une parenthèse et j'ai oublié de ce que je disais avant cette parenthèse.
Alors, simplement pour continuer notre conversation, si vous me permettez, je voudrais qu'on revienne un instant sur ce sentiment, ce qui vous relie à l'histoire, c'est ce que nous évoquions, ce qui vous relie à l'histoire. Je ne veux pas sombrer dans le lyrisme, mais ce qui vous relie à l'histoire, c'est quelque chose qui touche à la lumière. Je me permets de citer deux extraits de votre livre. Page 54, on trouve ceci. Il y a une lumière secrète cachée dans les ténèbres. Une lumière secrète cachée dans les ténèbres. Et vous citez Stefan Zweig, en 42, la dernière lettre qu'il laisse avant de se suicider, il écrit: Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore les lueurs de l'aube après la longue nuit? Moi, par trop impatient, je les précède. Et alors, voilà, j'ai envie, à partir de ces deux phrases, de vous entendre. Cette lumière, cette lumière de l'histoire, secrète, cachée dans les ténèbres.
Oui. Alors, la première, c'est que je la fais dire à mon arrière-grand-père. Il
Oui,
faut que je reprenne,
bien
vous
sûr.
permettez,
Je vous en prie.
une ligne plus haut.
C'est page 54.
Voilà. Alors, c'est donc je fais parler mon arrière-grand-père, ferblantier, feu fabricant des chandeliers, ayant été allumeur de réverbères. Et il est censé me parler à moi, petit enfant. Et il dit que lorsqu'il a été sur le bateau pour arriver aux États-Unis, voilà ce qu'il dit. Au bout du voyage, j'appris encore combien il est difficile de sauvegarder un rêve. Le reste, quoi te dire? Que tu sois là, dans mes vieux jours, à me poser des questions, prouve peut-être qu'il y a toujours une lumière secrète cachée dans les ténèbres. Voilà, c'est les questions qu'un enfant pose à son grand-père, qui fait sentir au grand-père que la transmission a été faite. Et voilà, en espérant que ce qu'il donne à l'enfant, et le fait que l'enfant pose une question, je crois que les questions souvent sont plus importantes que les réponses. Et le fait qu'un enfant soit là à poser des questions, cet arrière-grand-père peut mourir tranquillement. Il y a quelqu'un qui est là, qui pose des questions, qui se pose des questions, et il en a besoin pour vivre.
J'aurais une dernière question qui est la suivante. Vous nous avez parlé de vous, évidemment. Je n'ai pas parlé de moi, mais juste pour préciser le sens de ma question. En ce qui me concerne, je suis un athée, mais la question du religieux me préoccupe beaucoup. Parce que si en français, religion, religieux, si l'étymologie vient bien de religare, donc relier, est-ce que ce à quoi vous nous invitez à réfléchir, c'est justement ce lien qui réunit les vivants et les morts et qu'on peut appeler l'histoire.
Oui, moi aussi je ne crois pas parce que je n'ai pas été élevé dans la croyance. Mais il y a un écrivain que j'aime beaucoup, qui est Éric de Louka, qui lui n'est pas religieux non plus, qui lit la Bible tous les matins, et qui pour lui le sacré, c'est ce que les hommes ont pu écrire depuis que l'écriture existe, et que dans cette écriture, dans cette écriture qu'on peut trouver des réponses à ce qu'on fait. Voilà, c'est ce que les hommes ont créé, même si c'est à partir d'une croyance. Il y a des grands talmudistes qui ne sont pas croyants.
Mais alors, j'avais dit, c'est ma dernière question, mais ce que vous venez de nous répondre, de me répondre, m'invite à vous interroger de nouveau. Est-ce que vivre, et vivre en conscience, en conscience de l'histoire, est-ce que vivre, ce n'est pas en permanence nous adresser aux absents ? Non pas prendre leur place, mais nous adresser à eux.
Oui, mais je dirais que c'est un dialogue réciproque. Les absents nous parlent. Et c'est ce lien avec... j'arrive pas à comprendre, par exemple, comment on peut être... Enfin, sauf par accident, comment on peut être amnésique, comment on peut décider d'être amnésique de son passé. Je ne sais pas comment on peut vivre ça.
Et si vous me permettez... C'est la première fois que nous nous rencontrons, mais il me semble que votre souci, votre incapacité à être amnésique, cette incapacité-là, ne signifie pas que vous êtes tourné vers le passé. C'est à partir du passé que vous regardez devant.
Ah oui, oui. Ah ben bien sûr, il faut construire quelque chose. Voilà. Si à l'âge que j'ai, je fais encore des choses, et je continue à faire des films, à écrire encore, c'est parce que je suis curieux du monde, en espérant que le monde aussi sera un peu curieux de moi.
Je crois que vous pouvez raisonnablement l'espérer. Merci.